Ce n'est pas par hasard qu'un véritable ambassadeur de la musique, comme l'Argentin Astor Piazzolla, nous introduise dans ce programme spécial sur la Nuit des Idées, qui organise la 6e édition au niveau mondial, 5e en Argentine. Né le 11 mars 1921 à Mar del Plata, nous commémorons le centenaire de la naissance de Piazzolla, dont l'art nous accompagnera toute l'année, en commençant par cette nouvelle édition de la Nuit des Idées, un événement mondial promu par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères et qui se déroule en Argentine du 28 au 31 janvier de 19h à 23h. En ce 2021, la Nuit des Idées est organisée dans un contexte marqué par la pandémie de la Covid-19. Et pour la première fois, la rencontre est déployée sur une plateforme en ligne, la Noche de las ideas.ifargentine.com.ar. L'ancien hôtel Orten de Pinamar et le musée Mar à Mar del Plata, lieux historiques de la Nuit des Idées, diffuseront tous deux l'événement en direct avec une capacité limitée. Des activités sur place seront également proposées à Rosario, Mendoza et Córdoba grâce aux alliances françaises. Sous le thème « Être proche, être ensemble », on peut assister à des conférences, des tables rondes, des spectacles et des concerts pendant 4 nuits avec plus de 70 invités français et argentins, dont certains ont eu l'amabilité de nous envoyer leurs témoignages. Donc, place aux acteurs. En commençant par Lionel Paradisi Kuluma, conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Argentine, où il est aussi directeur de l'Institut français, et à qui je tiens à remercier profondément sa participation dans la production de ce programme.
Être proche, estar cerca, estar juntos. C'est ce thème qui constituera l'approche d'ensemble de la 5e édition de la Nuit des Idées en Argentine, qui aura lieu cette semaine du jeudi 28 au dimanche 31 janvier. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lionel Paradisi Kuluma, le nouveau conseiller de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France en Argentine et nouveau directeur de l'Institut français d'Argentine. J'ai le plaisir d'être dans ce beau pays depuis 5 mois environ. Merci beaucoup à Monsieur Éric Domergue et à RAE de me donner cette opportunité de vous parler de ce grand événement mondial du réseau culturel et de coopération de la France à l'étranger et qui se consacre à la promotion du débat d'idées. Chaque année, depuis environ 5 à 6 années, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, l'Institut français de Paris, propose de soutenir le débat d'idées, le dialogue entre les pays, le dialogue entre les cultures, et de faire réfléchir autour d'une problématique, d'une thématique commune. Cette année, dans le contexte à la fois des conséquences de la crise sanitaire, dans le contexte également du développement des opportunités du numérique, la thématique « être proche » s'est dégagée et elle se traduit pour nous en Argentine par cette question « estar cerca, estar juntos ». Depuis le mois de septembre, que nous travaillons avec mon équipe et avec un très important réseau de partenaires, parmi lesquels la Fundación Medife, la Universidad Nacional de 13 de Febrero, la UNTREF, tout un ensemble de partenaires publics, privés, français et argentins, c'est véritablement un travail d'équipe, nous avons réfléchi pour proposer ce dialogue culturel franco-argentin sous la forme d'un événement hybride. Un événement hybride car il comportera un véritable cœur numérique, un site internet dédié, une page web que vous pouvez retrouver sous le titre La Noche de las Ideas.if Argentine, bien sûr le E à la française, .com.ar, ou pour le dire en espagnol, La Noche de las Ideas Todo Pegado, .if Argentine, con una E à la francesa, .com.ar. Sur ce site, convergeront du jeudi 28 au dimanche 31 janvier 16 heures de programmes et de contenu culturel, tous les jours de 19h à 23h. Des performances artistiques, des interventions d'universitaires, d'experts, des musiciennes et des musiciens. Tous seront là avec nous. Cela représente plus de 70 invités argentins, français, avec une majorité de femmes, ce qui est très important pour nous dans le contexte de la promotion de l'égalité de genre et du Forum Génération Égalité que la France accueillera au mois de juin prochain. Il y a donc véritablement un cœur numérique de l'événement pour justement se rapprocher du public argentin, établir ce pont culturel, et nous aurons également une dimension de rapprochement avec l'action de plusieurs de nos ambassades sur le continent américain, un travail étroit qui nous associe à la Nuit andine des idées avec nos collègues d'Équateur, de Colombie et du Venezuela, et également un travail avec nos collègues aux États-Unis d'Amérique, ambassade de France à Washington, service culturel à New York, consulat général de Miami, puisque nous proposons au bon soin de l'artiste franco-argentin Esteban Fun de Colombie une performance artistique qui connectera l'Argentine et les États-Unis, Buenos Aires et Miami. Véritablement un pilier numérique que nous accompagnerons de certains événements présentiels, respectant bien sûr tous les protocoles et toutes les règles sanitaires en vigueur, dans quelques lieux emblématiques de la Nuit des Idées, le Viejo Hotel Ostende, la mairie de Pinamar, le Museo Mar de Mar del Plata, également des actions que nous mènerons grâce à l'implication des directrices et directeurs des alliances françaises à Rosario, à Córdoba, dans la province de Mendoza, à Godoy Cruz. C'est tout cela qui fait cet événement hybride, un événement unique donc qui tient en compte, qui prend en compte toutes les conséquences de la crise sanitaire et qui propose véritablement ce pont culturel assis sur la relation historique si forte entre l'Argentine et la France, aux racines culturelles si profondes, thèmes d'actualité, perspectives également en prenant en compte la réalisation des saisons culturelles croisées France-Argentine à l'horizon 2023-2024. Donc je vous invite à nous rejoindre sur ce site dédié, lanochedelasideas.ifargentine.com.ar, et je remercie une nouvelle fois M. Éric Domergue et RAE pour cette invitation et pour cette opportunité qui nous a été donnée.
Hola à tout le monde, je m'appelle Esteban Fun de Colombie. J'ai eu la chance d'être présent dans la première des Nuits des Idées à Ostende, et puis après j'ai participé de quasiment toutes les autres éditions sauf la dernière, et cette fois-ci ma participation sera comme celle d'autres artistes et collaborateurs, entre beaucoup de guillemets, virtuels. J'ai été convoqué pour faire une performance au Fine Arts Center de Puerto Madero à Buenos Aires. Et j'ai eu la restriction que je célèbre parce que je l'ai trouvée très inspiratrice de unir d'une certaine façon le Faina de Buenos Aires avec le Faina de Miami. Et comme je travaille très souvent autour de la promenade et de la marche, dans la littérature, dans le théâtre ou dans la performance, j'ai pu, d'une façon assez austère, soi-disant, créer ou avoir une idée pour unir ces deux endroits et pour les unir à pied. Donc, comme dans le texte qui fait partie de la performance et dans lequel je cite un vers du poète péruvien César Vallejo qui m'a accompagné pendant tout le confinement et même avant, je me suis lancé donc à marcher comme si c'était une méditation dans cette énorme et très jolie salle du Faina Art Center totalement vide pour atteindre les 7000 et quelques kilomètres jusqu'à Miami. On m'a parlé de proches et de s'approcher et j'ai tout de suite pensé à un vers de César Vallejo qui me touche depuis des années. Je l'ai lu pour la première fois à La Havane dans une anthologie du poète péruvien publiée par Casa de las Américas. Il dit « Jamais d'aussi près n'assaillit le lointain ». Cela me vient à l'esprit souvent dans des circonstances très différentes. Il m'habite comme un oiseau qui a construit son nid dans mon cœur. Cela me harcèle. Dernièrement, je l'ai trop présent. Je le pétris, je le déclame, je l'incorpore, je le pense, je le sens. Il y a tellement de phrases qui tournent autour de la distance. Je me demande ce qu'est la distance et immédiatement après, qu'est-ce que la proximité? Où? Comment? Dans les deux, je meurs. Dans les deux, je ressuscite. Je cherche le convexe dans le concave dans le convexe. J'ai fermé les yeux et, en un éclair, je me suis vu marcher de Buenos Aires à Miami, d'un faena à l'autre faena. Par voie terrestre, les 7094 kilomètres m'auraient pris environ 7 mois. Comme la marche est aussi une métaphore, en plus d'un moyen de locomotion toujours en vigueur, autonome, efficace et technologique, j'ai converti les kilomètres en pas pour les marcher, un à un, avec des pauses et des douleurs, dans cette salle limpide devenue carte. En ces temps particuliers, simuler peut-être une étrange forme de vérité et aller loin, une façon de commencer très proche. Et donc voilà, ça a été d'une façon toute simple ma participation dans cette nuit des idées très très particulière, et j'espère que les spectateurs vont profiter, comme moi-même je l'ai fait d'une façon spéciale, cette longue marche, cette promenade entre les deux villes. Et je remercie les producteurs de cet événement si important déjà dans le calendrier culturel de la ville de Buenos Aires, et à très bientôt.
Bonjour, je m'appelle Moira Cristian, je suis historienne et chercheuse du CONICET, le Conseil national de recherche scientifique et technique de l'Argentine. Je suis ravie de faire partie de ce programme de la Nuit des Idées, de cette édition si spéciale de l'année 2021. C'est ma première participation à ce grand événement et je m'en réjouis. Vu que ma formation et mon parcours professionnel s'est passé entre la France et l'Argentine, je me sens très très contente d'en faire partie. Je pense que ce genre de réunion mondiale a une importance significative pour créer de la communication entre les scientifiques et les grands publics et pour susciter de la réflexion dans un moment si difficile comme celui qu'on traverse maintenant. Justement, le sujet de cette année, estar cerca, estar juntos, être proche, être ensemble, a obligé à transformer le mode de fonctionnement et de passer d'une bonne partie des activités au mode virtuel, à des rencontres numériques, ce qui nous obligera d'être ensemble d'une autre façon. Néanmoins, je pense que cette transformation aura au moins deux avantages. D'une part, ce mode de réunion permet de faire retrouver des personnes qui habitent dans différentes villes de l'Argentine et ailleurs. D'autre part, ça nous a permis de préparer un matériel qui restera disponible au-delà de cette date. Dans mon cas, je proposais d'essayer de mettre en dialogue l'histoire de la résistance culturelle en Argentine pendant la dictature avec des expériences de dénonciation publique de la violation des droits de l'homme par les militaires argentins, notamment le cas de l'AIDA, l'Association internationale de défense des artistes victimes de la répression dans le monde, et sa campagne pour l'Argentine. Pour la Nuit des Idées, nous avons préparé un documentaire avec l'aide des réalisateurs Patricio Chados et de Violeta Ramírez et la participation de l'équipe de Memoria Abierta qui nous ont aidés à sélectionner des extraits des témoignages de ces archives d'histoire orale. Nous avons également compté avec la générosité de l'Institut National d'Audiovisuel de France qui nous ont autorisés à montrer des extraits des archives télévisées inédit. C'est alors pour moi un grand plaisir de pouvoir communiquer des résultats d'une recherche qui m'a pris plusieurs années et qui a abouti dans un ouvrage qui sortira mi-février à Buenos Aires chez Imago Mundi. L'ouvrage s'appelle AIDA, une historia de solidaridad artística transnacional. AIDA, une histoire de solidarité artistique transnationale 1979-1985.
Bonjour, je m'appelle Pablo Ortenberg. Je suis né à Buenos Aires en 1974. J'ai un doctorat en histoire de l'École des hautes études en sciences sociales et une maîtrise en anthropologie de l'Université de Buenos Aires, la UBA. Je suis actuellement chercheur au Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, enseignant d'histoire latino-américaine dans l'Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de General San Martín, UNSAM. Je suis également directeur du Centre d'Estudios de Historia Política dans cette université. Je suis l'auteur de nombreux articles et de livres sur les rituels politiques en Amérique latine. En 2012, par exemple, mon ouvrage « Rituel du pouvoir à Lima » a été d'abord publié en français avec un prologue de Nathan Vachtel. J'étudie les rituels politiques à partir du carrefour disciplinaire entre l'histoire politique et l'histoire culturelle. Pendant plusieurs années, j'analysais la transition du cérémonial monarchique au cérémonial républicain à Lima, centre de pouvoir espagnol en Amérique du Sud. Depuis 10 ans, à peu près, j'étudie les célébrations du centenaire en Amérique latine au cours des premières décennies du XXe siècle. Mon intérêt ici, c'est d'analyser comment les discours identitaires, nationalistes, panaméricains, hispano-américains, latino-américains, etc., s'expriment dans le cadre des pratiques symboliques des intellectuels, des hommes politiques, des diplomates, des artistes, des sportifs, des militaires latino-américains qui circulent d'un centenaire à l'autre. La mise en scène des identités diverses a permis d'enrichir des liens et d'activer des échanges entre les gouvernements et les sociétés de la région, mais aussi de mettre en évidence des projets dissonants. C'est ma première participation à la Nuit des idées. Le leitmotiv de cette édition, Être proche, être ensemble, coïncide directement avec mes travaux de recherche dans lesquels j'analyse les enjeux géopolitiques dans les célébrations des centenaires sur les continents. J'étais filmé dans le Museo Histórico Nacional à Buenos Aires, précisément dans l'espace où est exposé le sabre courbé qui appartenu au libertador José de San Martín. Ça n'a pas été par hasard. Mon exposé montre comment la virtualisation forcée du monde en pandémie a également affecté les façons de célébrer la nation dans les bicentenaires patriotiques actuels et compare ceci aux célébrations des centenaires de 1900. En 2020, les bicentenaires de l'expédition de libération au Pérou, l'expédition Libertador al Pérou, commandée par José de San Martín, a montré au Pérou une cérémonie de rapprochement entre l'Argentine, le Chili et le Pérou, mais sans public présent en raison du Covid. En revanche, le centenaire de l'expédition célébrée en 1920 par le Pérou met en évidence l'intérêt de ce pays à se rapprocher diplomatiquement de l'Argentine et augmenter sa distance diplomatique par rapport au Chili, son rival dans les conflits sur les provinces de Tacna et Arica. Le Chili a profité de ces centenaires pour réaffirmer son rôle central dans l'épopée commémorée, mais aussi pour se rapprocher de l'Argentine et s'éloigner du Pérou. Par conséquent, les fêtes nationales ne sont pas seulement des célébrations qui servent à renforcer l'identité nationale de chaque pays, mais elles sont aussi utilisées pour rapprocher ou éloigner les pays les uns des autres. Les fêtes patriotiques modèlent une mémoire officielle, certes, mais à la fois elles visent à exercer une influence dans les contextes internationaux délicats. Je vous invite à regarder la présentation complète où cette idée est développée avec des exemples historiques. Merci beaucoup et à bientôt, j'espère.
Chères auditrices et chers auditeurs de l'Argentine vers le monde, je m'appelle Sarah Almatari, j'enseigne à l'Université Lumière Lyon 2. J'appartiens à l'IRIM, une unité de recherche qui valorise les approches socio-historiennes de la littérature. Et depuis quelques mois, je suis membre junior de l'Institut universitaire de France. Le partage entre études littéraires et sciences sociales est au cœur de mes travaux. Il témoigne d'un goût pour les genres jugés mineurs, entre autres la presse militante, les témoignages autobiographiques, les écrits ouvriers et les textes érotiques. Il montre surtout un intérêt pour les formes que prend la polémique depuis le XIXe siècle, aussi bien dans le monde savant qu'en politique. C'est la raison pour laquelle, lors de la précédente édition de la Nuit des idées sur le thème « Être vivant », j'ai animé à Paris, en tant que co-rédactrice en chef de la revue électronique « La vie des idées », une table ronde où Jean-Marie Durand et Mathieu Hochkorn ont prouvé la vitalité de l'activité et du débat intellectuel. Cette année, j'interviens à distance, dans le cadre de la programmation argentine. La visioconférence ne remplace pas, bien sûr, le face-à-face. Elle ne permet pas les poignées de main, les rencontres à la buvette, les clins d'œil complices. Mais il me semble important que, malgré la crise sanitaire, des échanges puissent être maintenus de part et d'autre de l'Atlantique, à la faveur d'initiatives culturelles, d'envergure et de qualité, mêlant le présentiel et le distanciel, l'oral et l'écrit, les spécialités et les langues. Pour moi, dont les parents sont originaires de Jordanie et d'Espagne, qui exercent à Lyon mais vivent à Paris, chatter avec le public argentin alors qu'il est 1h du matin, quand d'autres comptent les moutons, ce sera comme jouer à saute-mouton au-dessus d'un océan. Et je suis fière d'alimenter un grand flux qui ne soit pas celui du capital, mais des idées dont nul ne peut prétendre freiner la circulation. En cette année où la pandémie a frappé d'ambiguïté cette proximité sociale à laquelle nous tenons tant, j'ai choisi de présenter, en espagnol, quelques réflexions tirées de l'essai « La haine des clercs, l'anti-intellectualisme en France » que j'ai publié au printemps 2019 aux éditions du Seuil. Mon intervention, intitulée « Les intellectuels peuvent-ils se rapprocher du peuple ?», s'appuiera sur des exemples littéraires afin de brosser un rapide parcours allant de la Révolution française à la période la plus contemporaine. Je tâcherai d'insister sur la manière dont le partage entre travailleurs intellectuels et travailleurs manuels a profondément divisé la société. Il sera question de Jules Vallès et de la Commune, dont on célébrera dans peu de temps le 150e anniversaire, de prise de position pendant l'affaire Dreyfus, aussi bien à gauche qu'à droite, du surplus de diplômés, mythes et réalités, d'anarchisme, de nationalisme, de populisme et de tentations autoritaires. Nul doute que malgré leur spécificité, les manifestations françaises d'anti-intellectualisme suscitent rapprochement et réaction chez le public latino-américain. Le dialogue s'annonce fructueux. Merci à toutes celles et tous ceux qui participeront à l'événement, de près ou de loin.
Bonjour, je suis Alexandre Roig, sociologue de l'Université nationale de Saint-Martin et maintenant président de l'Institut national de l'associativisme et l'économie sociale, l'INAES, dans le gouvernement national. C'est ma deuxième participation à la Nuit des idées, l'année dernière sur une plage, cette année devant un écran, mais en soutenant la possibilité de la rencontre, la possibilité du débat, de la réflexion, d'autant plus important effectivement dans ce contexte où la pandémie nous a éloignés de la possibilité de la proximité avec tous les effets que cela a, point de vue économique, politique, social, symbolique et affectif. Et justement c'est pour cette raison qu'il me paraissait important de pouvoir apporter une idée depuis justement ce que sont mes lignes de recherche et d'action, c'est-à-dire l'économie populaire, l'économie sociale, de rendre compte de la possibilité de respirer à nouveau dans la proximité en nous alimentant d'une certaine façon de l'atmosphère du monde populaire. Parce que justement, c'est dans cette atmosphère-là où il y a une possibilité de transformation sociale qui est nécessaire et d'un espace de créativité. Parce que justement, c'est dans le monde populaire où il y a une possibilité d'envisager des chemins différents. D'autant plus, cette année, d'autant plus après la pandémie, il nous semblait nécessaire de poser certaines lignes qui permettent de débattre sur les différentes façons de respirer à nouveau. Encore une fois, heureux de participer à la Nuit des idées, en sachant que cette année sera exceptionnelle, et d'autant plus exceptionnelle si on arrive effectivement à revenir les pieds dans l'eau et les yeux dans les yeux et pouvoir respirer ensemble un air de pensée renouvelée. Merci beaucoup.
Bonjour, je m'appelle Patrice Kilofer, je suis dessinateur. J'ai 54 ans et je fais à peu près tout ce qu'on peut faire en dessin, à peu près, dis-je, c'est-à-dire de l'illustration de presse, du dessin de presse, ce qui n'est pas la même chose, hein. L'illustration de presse, on, on illustre des articles, et le dessin de presse, on est éditorialiste. On choisit soi-même ses sujets. J'ai pu faire ça, j'en fais plus beaucoup de la presse, mais j'en fais encore un peu, sinon je suis illustrateur dans l'édition, des couvertures de livres, des illustrations pour des livres. Sinon je fais de la bande dessinée, je suis auteur de bande dessinée, et je suis aussi dessinateur dans l'absolu, j'allais dire, c'est-à-dire pour amuser la galerie, c'est-à-dire je fais des dessins dans les galeries d'art, dans une galerie d'art qui s'appelle Anne Barreau, et dont il m'est arrivé de faire des expositions dans des musées aussi, au Sable d'Olonne ou ailleurs. Sinon, je suis un peu éditeur aussi, à l'association. Ça, c'est une activité qui est un peu finie maintenant. Sinon, je m'occupe d'une revue qui s'appelle Mon Lapin Quotidien, dont je suis le rédacteur en chef, avec Quentin Fauconpré, qui lui aussi est rédacteur en chef. Nous sommes deux rédacteurs en chef dans cette revue, et qui est mise en image, en page, en image, pas tout à fait, puisque en fait on fait autant appel à des imagiers, des imagistes, des illustrateurs, des dessinateurs, des artistes plasticiens qu'à des écrivains. Je vais pas faire la liste, je vous recommande d'aller vérifier tout ça sur le site de l'association, puisque en fait il s'agit de la revue de l'association, Mon Lapin Quotidien. C'est Rocco qui s'occupe de faire la mise en page, qui est le maquettiste de la chose, le designer de la chose, qui par ailleurs est illustrateur lui aussi. Ce que j'ai fait dans le cadre de cette collaboration avec Christophe Giudicelli, ça s'est fait tout naturellement parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, Christophe, qui est un compagnon de route de longue date de l'association et un peu un copain, j'ose le dire, j'espère qu'il ne me démentira pas. Et qui a pu, par exemple, à l'époque où il travaillait, je ne sais plus en qualité de quoi, dans le réseau diplomatique français à Mexico, et qui a pu faire venir, par exemple, des auteurs de l'association au Mexique. Et d'ailleurs, il a été l'initiateur d'un livre que l'association a publié dans les années à vue de nez, je dirais 2000, qui s'appelle ben, tout simplement « L'association au Mexique ». C'est à l'initiative de Christophe Giudicelli que ce livre s'est fait. Il a pu, à cette occasion, organiser un peu tout ça de son côté, c'est-à-dire recevoir les gens et les aiguiller un peu au Mexique. À la suite de ce livre-là, l'association a fait d'autres livres du même acabit, l'association en Égypte, l'association en Inde. Et quand il m'a demandé de participer donc à cette histoire en Argentine, j'ai accepté tout naturellement puisque on se connaît depuis longtemps. Et puis les thématiques, les ouvrages, les auteurs qu'il a pu choisir dans ce cadre-là, je trouvais ça très pertinent. Ça m'étonne peu de lui parce que c'est quelqu'un de pertinent, Christophe. Et je l'ai fait avec plaisir. Et j'espère que vous aurez eu vous aussi, autant de plaisir à voir ce que j'ai fait. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire par rapport à cette histoire. Un dernier petit mot avant de vous dire au revoir, c'est les auteurs argentins, c'est vrai qu'il y en a eu de très très bons à une époque, ça c'est un peu en train de se tarir là aussi, mais je ne doute pas que ça va revenir très vite. Moi, personnellement, j'ai eu affaire avec Ricardo Mosner, qui est un peintre argentin, mais pas seulement, aussi homme de théâtre, homme de radio, homme de mots, homme de spectacle. J'ai eu affaire à lui en tant que peintre et on a pu ensemble réaliser deux grands formats il y a quelques années. Et là aussi, c'était un grand plaisir. Et je crois que j'ai fini. Et je crois que je vais maintenant vous embrasser chaleureusement. Et j'espère à bientôt parce que tout ça est très agréable, hein, finalement. J'ai une vie très agréable. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.
Je suis Sylvia Oppenheim, écrivaine et journaliste culturelle. Je fais partie de la Nuit des Idées depuis le début, même c'est moi qui a suggéré le Hôtel Ostende à cause de son histoire et le glamour. En même temps, c'est un espace propice pour l'art et la réflexion. J'ai fait une conférence, je ne sais plus si l'année dernière ou avant, sur le plongeoir, et après je me suis lancée dans la piscine. Ce fut une expérience géniale, très amusante, et en même temps, c'était pas facile de penser qu'après avoir fait une conférence, j'allais plonger. mais c'est pas mal d'exposer un sujet littéraire, philosophique à propos de Macedonio Fernández, comme je l'ai fait, et après dissoudre les mots sous l'eau. Ça rafraîchit la réflexion en tout cas. Je trouve génial la façon dont se combinent à la nuit des idées les différentes disciplines de l'art et de la pensée, un trésor du présent, si on peut le dire. Et cette année, le sujet qui est être proche, être ensemble, ça m'a donné envie de reprendre un roman que je trouve génial pour s'adapter au temps qui change continuellement, Alice au Pays des Merveilles. Et j'ai proposé à Marilou Marini, qui est une grande actrice argentine, aussi elle habite en France, à Paris, j'ai proposé de faire la reine et la duchesse, pour rendre compte des possibilités d'être proche dans un temps qui n'est pas le temps habituel de l'horloge, mais c'est un temps de la mémoire qui va vers l'avant et vers l'arrière, comme Lewis Carroll décrit la mémoire en Alice. Donc c'est un roman qui nous permet de changer tout le temps et en même temps se rencontrer avec des gens qu'on ne connaît pas dans un espace nouveau, l'espace du temps.
Je suis Luisa Guerrezabal. Je suis professeur à l'Université nationale de Mar del Plata et ingénieur agronome au départ. Et j'ai suivi un doctorat en France et quelques années après, un postdoc. J'ai participé ou dirigé dans plusieurs projets de coopération bilatéraux avec la France et même dans des projets européens où des chercheurs français participaient. Et depuis 3 ans, je dirige le Centre franco-argentin de l'Université nationale de Mar del Plata, encadré dans notre département des relations internationales, où j'ai pu développer un autre volet des échanges avec la France. Et j'ai choisi d'étudier en France, et comme les moineaux de Paris disaient, je ne regrette rien de mon choix, parce que je me suis senti toujours très à l'aise. Mais probablement le plus important, c'est que grâce à ça, depuis 30 ans, j'ai des amis français avec qui j'échange presque toutes les semaines. Et ça, c'est très important, parce que dans ces moments où être proche, c'est essentiel. Et on peut être proche malgré la distance. Comme directeur du Centre franco-argentin, j'ai participé en représentation de l'Université nationale de Mar del Plata dans les éditions précédentes de la Nuit des Idées, tant comme co-organisateur, mais aussi comme participant, comme chairman des tables rondes, dans différents rôles. Ce type de réunions internationales, et spécialement la Nuit des Idées, nous a toujours rapprochés, car à la même date, plusieurs pays se rencontrent avec la France pour réfléchir et créer de nouvelles idées qui peuvent être à la base des améliorations de la qualité de vie de toute l'humanité. Cette édition de la Nuit des Idées est très spéciale, fidèle au sujet être proche, être ensemble. Le Centre franco-argentin de l'Université de Mar del Plata a collaboré avec le musée MAR, le Museo MAR, notre musée d'art contemporain, pour tourner dans les musées même, suivant tous les protocoles qu'il fallait. Le défi a été vraiment difficile, mais on voulait que le siège des éditions précédentes, les musées MAR, soit présent, même dans ces contextes de pandémie mondiale. Notre Centre franco-argentin a choisi dans cette édition de présenter l'agronome Fernando Andrade, qui a reçu le prix plus important pour un chercheur argentin. Il est chercheur de la nation argentine. Il va nous parler sur comment on peut alimenter l'humanité dans le présent et dans le futur. Et aussi, nous allons présenter la poète Fernanda Mujica avec une vision poème. Elle est excellente. L'art sera aussi représenté dans l'ambiance du Muséoma par des artistes qui appartiennent au circuit non commercial de Mar del Plata. Il y aura un monologue d'Olivia Diab, une intervention du groupe El Carromato, ainsi que des chansons de notre amie Belén Pasqualini, une merveilleuse chanteuse et actrice qui est petite fille de Christian Dosne Pasqualini, qui a 100 ans, et une scientifique française qui a développé sa carrière en Argentine, dont son histoire peut mériter probablement un interview elle-même. Merci beaucoup de cette opportunité que vous nous avez donnée au Centre franco-argentin de l'Université nationale de Mar del Plata pour vous raconter notre participation dans cette édition si spéciale et si importante de la Nuit des Idées. Merci pour pouvoir me rapprocher et être ensemble avec vous.
Je m'appelle Éric Valette, je suis artiste plasticien, j'habite à Paris et je travaille aussi à l'université d'Amiens en Picardie. Donc j'ai ce statut d'enseignant-chercheur qui fait que je mène une recherche à la fois artistique et une recherche qui prend la forme plus universitaire de colloques, d'écriture, d'articles, de livres, etc. Dans le cadre de cette Nuit des Idées à Buenos Aires, j'interviens sous forme de dessin. J'accompagne une conférence qui a été enregistrée au préalable de Elsa Boyer par un travail dessiné qui s'efforce de poursuivre, développer, peut-être parfois dériver le propos de manière à éviter absolument un travail de type illustratif où on amènerait une image qui proposerait une illustration de ce qui est dit, mais plutôt une forme de connexion qui prend le risque du parasitage, c'est-à-dire que j'ai fait un travail assez important de recherche iconographique à partir d'enregistrements qui m'avaient été proposés, que j'ai créé des connexions visuelles qui, elles-mêmes, entre elles, produisent un sens qui est un sens, je dirais, parallèle à celui de la conférence, qui l'accompagne sans forcément la soutenir, avec, encore une fois, ce risque de la complexifier, de la rendre moins lisible, mais aussi de lui proposer des articulations, peut-être parfois des simultanéités de la pensée que le dessin permet. Et c'est vrai que cette approche du dessin m'intéresse parce que c'est aussi comme ça que j'ai développé une pratique d'accompagnement de la parole. Alors là, c'est la première fois que je le fais à partir d'un texte enregistré sans avoir discuté en amont. Et ça, c'est les conditions de la pandémie qui le fait. Donc là, c'est un travail un peu particulier. Habituellement, je le fais plutôt sous forme performée. Je l'ai fait avec mes propres textes, en conférence-performance, parfois avec une comédienne. Je l'ai fait avec une compagnie de danse, Wishing Machine, qui est à Bruxelles, en Belgique, et le chorégraphe Mauro Pacaniella, avec qui j'ai fait plusieurs travaux sous forme de spectacle, où la parole conférencière est intégrée et confrontée à la pratique du danser chorégraphique. Et j'ai aussi été invité depuis cette année, enfin quand c'est ouvert, à faire des conférences performées au Centre Pompidou, enfin à vrai dire à accompagner des conférences dans un cycle qui s'appelle Planétarium, et où je manipule des dessins et je construis comme ça un élément graphique en direct, à partir là aussi d'une recherche iconographique préalable, d'un travail de dessin préalable et de discussion avec les conférenciers. Donc c'est une forme qui m'intéresse parce que ça permet de mettre à distance aussi l'autorité de la parole et du texte et de la faire glisser vers une complexité qui n'est pas complètement dérangeante. On peut laisser filer le dessin et ne pas forcément chercher les connexions. Et on peut aussi parfois s'échapper et enrichir comme ça sa compréhension par d'autres formes, peut-être des formes plus sensibles, plus intuitives, qui fait référence à des éléments de sa mémoire ou de connexion visuelle simplement. Et c'est vrai que pour cette conférence des aboyés, j'ai beaucoup travaillé à partir de références culturelles, artistiques, c'est de là d'où je viens, d'où je parle, de mon champ. Évidemment, en ayant en tête que les personnes qui vont voir ça n'ont pas forcément la reconnaissance, et ce n'est pas grave, et c'est ça qui m'intéresse aussi, c'est que pour certains, ça va être des éléments qui vont être reconnus, donc qui vont produire un sens très précis pour d'autres. Ce sont des images un peu interrogatives qui ont l'avantage d'être précisément réalisées, c'est-à-dire qu'on voit bien que ce ne sont pas là par hasard. Et ces connexions-là m'intéressent beaucoup. Par ailleurs, j'ai une démarche de recherche que je fais principalement avec un collectif qui s'appelle Suspended Spaces, les espaces en suspens, un collectif qui a plus de 10 ans et qui est basé à Paris aussi, mais qui est international, et qui mêle des artistes et des chercheurs autour d'espaces qui sont en suspens, donc comme son nom l'indique, qui ont été arrêtés ou empêchés pour des raisons économiques, historiques, politiques, et qui sont là aujourd'hui présents en posant des questions, en ouvrant des possibilités de fiction, de projection. Ça a commencé à Chypre, qui est une île méditerranéenne, ancienne colonie anglaise. À Chypre, il y a une ville fantôme qui s'appelle Varosha, un quartier de Famagusta. Donc c'est le résultat d'une division entre deux communautés, les Chypriotes grecs, Chypriotes turcs, non résolus. Et nous avons été quelques-uns à être saisis par l'aspect spectaculaire questionnant, interrogeant de cette ville fantôme comme ça qui se présente à nous en Europe. Et on a commencé un travail assez long de résidence, de recherche artistique et théorique autour de ça, qui nous a amené ensuite à traverser la Méditerranée pour aller au Liban à partir d'un nouveau Suspended Space, espace en suspens, la foire internationale Rachid Karamé, qui est un projet inachevé de l'architecte Oscar Niemeyer à Tripoli, au nord du Liban. Là aussi, un espace arrêté par la guerre civile, arrêté par le conflit qui a déchiré le pays en 1975. Donc un projet qui n'a jamais été terminé, mais qui existe aujourd'hui comme une sorte de parenthèse spatiale dans le territoire urbain du Liban. Donc on a aussi fait un travail là-bas, et Niemeyer nous a amené à aller au Brésil et à engager un travail avec le Brésil qui a débouché sur une résidence de 20 artistes et chercheurs brésiliens et européens sur un bateau de Santarém à Fordlandia, puisque c'est Fordlandia qui nous a intéressés, ce village, cette ville que Henry Ford a construit en 1928 pour cultiver des EVA et extraire du caoutchouc pour pouvoir fabriquer les pneus de ces automobiles. Et Fordlandia est synonyme d'un réel échec économique, humain, écologique. Mais c'est aussi un village qui a une existence paisible aujourd'hui. Et cette réalité de l'Amazonie, de ce que ce projet délirant signifie par rapport à la confrontation entre le projet moderniste, le projet moderne, ce projet utopique presque de vouloir civiliser sur le modèle américain une partie du monde considéré comme sauvage ou naturel, nous renvoie à des questions qui aujourd'hui sont urgentes, celle de la crise écologique, celle de la remise en cause de la cosmologie naturaliste, pour parler comme Philippe Descola, de nos traditions modernes. Et voilà, faire un travail comme ça de résidence sur le territoire très précisément, en immersion dans un lieu, a été l'objectif principal de mes derniers travaux. Et c'est dans cette perspective aussi que la question du proche me touche particulièrement. Comment ce petit village qui est presque le lointain le plus éloigné, est en connexion avec toutes les questions du monde depuis plus d'un siècle et une crise qui aujourd'hui est planétaire et qui est le résultat aussi de cette confrontation entre une certaine forme de pensée, une pensée en expansion, une pensée extractiviste et une réalité qui résiste à tout ça.
Bonjour, je suis Lucas Martin, je suis politologue de l'Université nationale du Sud, l'Université nationale del Sur, située dans la ville de Bahia Blanca, et chercheur aussi du Conseil national de recherche scientifique et technique, tout cela en Argentine. Et j'aimerais vous raconter un peu sur l'importance de la Nuit des idées et sur ma participation. La première chose qui fascine à tous ceux et celles qui participent dans cet événement mondial, c'est d'abord, je dis, l'esprit de convivialité, en même temps que le mélange des disciplines et des professions qui s'y ressemblent. Acteurs, écrivains, historiens, musiciens, physiciens, danseuses, politologues, dessinateurs, éditeurs, poètes, économistes, etc., etc. Nous nous rassemblons pendant quelques jours de l'été argentine dans deux villes aux côtés de la mer, Ostende et Mar del Plata. Nous y discutons, échangeons nos points de vue, nous bavardons, nous apprendrons des autres, nous rions ensemble. Et tout cela entremêlé avec les publics qui viennent nous écouter, mais aussi nous parler et accepter notre compagnie. Nous faisons de nouvelles connaissances et de nouveaux amis d'ici et de là-bas. J'ai eu la chance, par exemple, d'échanger avec des intellectuels français comme Esteban Buch, Esteban Butch, Barbara Cassin, Florent Guénard. J'ai pu connaître aussi l'acteur et écrivain argentin Esteban Fenn de Colombie, aussi au grand chanteur Brian Chambuleiron, pour ne mentionner que quelques petits exemples. Il y a une énorme quantité de gens que j'ai pu connaître, parce que j'ai pu aussi participer de toutes les éditions qui ont été faites de la Nuit des idées en Argentine. Alors ça sera ma 5e participation cette année-là. J'ai bien dit tout à l'heure, la Nuit des idées pendant quelques jours, parce qu'en Argentine, depuis le tout début de l'événement, la Nuit des idées s'étend pendant 3 ou 4 jours. Il s'agit là d'une idée qui est née de l'Institut français en Argentine, notamment de l'ancien responsable de l'Institut, Jan Lorvo, et aussi de Guillaume Bocara, qui a été le directeur du Centre franco-argentin à l'Université de Buenos Aires. Et il s'agit toujours, je disais, de 3-4 jours où nous produisons nos exposés, concerts, perfos, vidéos, etc. Mais aussi, nous mangeons ensemble et nous partageons notre temps libre, soit à la plage, soit dans un café, soit dans une soirée dansante improvisée là où nous nous trouvions. Donc voilà, une deuxième chose aussi, ou troisième à remarquer, c'est le défi à sortir de sa zone de confort. Conséquence de cette mélange, mais aussi de la rencontre avec un public large et varié, et pourquoi pas du fait de que tout se déroule au beau milieu des vacances d'été, dans un, disons, contexte décontracté. Nous, académiciens, professeurs, chercheurs, chercheuses, sont invités par l'Institut français en Argentine à abandonner pour un moment les cadres formels, rationnels, un peu coincés aussi, de nos rituels d'intervention académique. Pas facile pour nous, mais on apprend immédiatement, tout de suite, dès qu'on arrive, qu'on doit, disons, s'adapter et profiter de l'opportunité de présenter ce que nous faisons d'une autre manière, d'une manière nouvelle, d'une autre façon. Que tout le monde puisse comprendre et aussi pour que nous pourrons comprendre la manière dont nos travaux sont reçus par le public. Alors, je pense que comme conséquence de cette expérience aussi, chacun de nous, nous gagnons une manière différente de voir notre travail. Alors, nous rentrons chez nous, nous finissons l'été, les vacances, nous rentrons chez nous et nous gagnons, disons, un autre point de vue pour reprendre nos travail habituel et nous changeons, je pense, évidemment, la manière de penser et de faire notre travail. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de participer dans toutes les éditions, depuis la première en Argentine qui a été en 2017. Cette fois-ci, par contre, on n'aura pas la présentialité, les contacts directs avec les autres intervenants et avec le public. Mais malgré cela, je pense que l'esprit de convivialité, de rassemblement convivial, va continuer comme toujours, et notamment à partir du sujet de cette année-là proche, qui en Argentine prend comme titre « Estar cerca, estar juntos », être proche, être ensemble, et qui tient toujours l'esprit de la nudité autant qu'on le connaît en Argentine. Moi, personnellement, je vais présenter avec une collègue philosophe et poète de la Université nationale du Sud, l'Université nationale du Sud, Karen Garrote. On a produit, nous deux, une sorte de dialogue entre politique et poésie. Le titre de notre vidéo sera « Tan cerca, tan lejos, un dialogue possible entre politique et poésie ». Ça veut dire « tellement proche, tellement loin, un dialogue possible entre politique et poésie ». Il s'agit d'une vidéo où la sensibilité poétique de la distance et la proximité, la manière poétique de comprendre et apprendre la distance, l'espace, la proximité, est mise en dialogue avec l'analyse plus rationnelle, si l'on peut dire, des ambivalences des politiques de l'espace. Car s'il y a une politique de la proximité consacrée à entendre les proches, les prochains, se rapprocher des victimes pour entendre qu'est-ce qu'ils sont à dire, s'il y a donc une politique de la proximité, il y a aussi une politique de la distance. Par exemple, celle de la guerre, celle des armes, du poignard, de la lance, de la flèche, du fusil, du canon, du bombardier et finalement du drone. Et entre l'un et l'autre, les ambiguïtés d'être proches. Entre la proximité de l'écoute du représentant politique et la distance des armes de guerre qui éloignent de plus en plus les combattants, il y a des ambiguïtés. Il y a d'autres politiques de l'espace, de la distance et de la proximité, c'est-à-dire les ambiguïtés d'être proche, c'est-à-dire proche du prochain et proche du regard réprobateur, du reproche. Donc voilà, c'est ces lignes de réflexion qu'on essaiera de mettre dans un dialogue entre politique et poésie avec Karen Garrote. J'espère aussi profiter de beaucoup des interventions qu'il y aura cette année-là, qui vient non seulement de l'Argentine, mais aussi d'autres pays de la région. On n'aura pas des invités français sur place, mais on aura aussi des participations à distance. On pourra profiter, comme toujours, de la participation de Fen de Colombie, comme je viens de mentionner, de Alejandro Katz, un essayiste et éditeur argentin, de Alejandro Dagfal, un psychanalyste argentin aussi, et beaucoup d'autres collègues et amis que j'ai pu connaître dans les antérieures éditions de l'année des idées et que j'ai pu connaître encore dans cette année-là en essayant de faire en contact, même si on restait à distance.
Je m'appelle François Pujos et je suis né il y a 48 ans dans la magnifique ville vitivinicole de Bordeaux. Je suis un paléontologue franco-argentin et j'ai étudié principalement les restes d'animaux fossiles d'Amérique qui ont entre 30 millions et quelques milliers d'années. Docteur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, j'ai été durant de nombreuses années chercheur au ministère des Affaires étrangères de France, affecté au Pérou. Je suis arrivé à Mendoza en 2007 et ça fait plus de 10 ans que je peux développer ma passion comme chercheur du CONICET, l'équivalent du CNRS. Je travaille principalement sur l'évolution des mammifères dans la partie la plus centrique d'Amérique du Sud, c'est-à-dire l'altiplano bolivien, l'Amazonie péruvienne, des grottes brésiliennes, mais surtout les déserts de la province argentine de Mendoza, où j'ai réalisé de nombreuses missions de terrain exploratoires dans des zones inconnues à la recherche de restes d'animaux éteints. C'est ma première participation à la Nuit des Idées, et dans ce cadre, c'est important, spécialement en considérant les moments compliqués de confinement que nous sommes en train de vivre, de pouvoir parler de thèmes qui nous sortent un petit peu de notre routine quotidienne. En ce qui me concerne, c'est réellement un plaisir pour moi de pouvoir parler de ma passion que j'ai depuis l'âge de 5 ans, à l'époque où je suivais ma mère dans les Finlandes de Bordeaux à la recherche de restes de requins fossiles. C'est également une très bonne opportunité de pouvoir observer les liens qui ont existé dans le passé, au cours de l'histoire, entre la France et l'Argentine en relation avec les sciences naturelles et de pouvoir parler de paléontologues, géologues, de naturalistes français qui ont participé d'une certaine manière au développement de la connaissance en Argentine. c'est important pour moi, en tant que scientifique, de pouvoir parler avec vous de sciences naturelles de manière générale et de manière très simple. En effet, je vais vous raconter des histoires en relation avec la province de Mendoza et je suis conscient de la chance que j'ai de pouvoir vivre dans cet endroit merveilleux situé au pied des Andes. Nous n'allons pas parler uniquement de fossiles, mais également de personnes, de scientifiques. Comment ne pas mentionner Alcide d'Orbigny, grand naturaliste et explorateur français qui est venu en Amérique du Sud mandaté pour le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris au début du 19e siècle et qui a exploré de nombreux pays sud-américains et principalement l'Argentine à la recherche d'animaux, de plantes, de micro-organismes, mais aussi de fossiles. Nous allons aussi parler d'illustres paléontologues de Mendoza, comme Rosendo Pascual, que j'ai eu la chance de connaître, l'un des pères de la paléontologie moderne en Amérique du Sud. Naturellement, nous allons parler avec ma collègue argentine, Analia Forazepi, de gisements fossilifères de la province de Mendoza, et plus précisément de deux localités, Quebrada Fiera et Huayquerias, qui sont à peu près des gisements de 22 et 6 millions d'années, dans lesquels nous avons pu rencontrer des milliers de restes de fossiles, de mammifères éteints, marsupiaux, mais aussi de formes endémiques, comme les paresseux ou les tatous géants, mais aussi les ongulés natifs, sans oublier les immigrants africains que sont les rongeurs. Durant cette nuit des idées, nous allons essayer de rêver un petit peu ensemble, de nous mettre dans la peau de ces grands explorateurs qui ont sillonné le continent sud-américain à une autre époque, comme j'ai eu la chance de faire ces dernières années à la recherche de fossiles d'animaux éteints.
Il est bien connu que la musique, l'art, le débat des idées est un pont entre les cultures. Dans ce cas, entre la France et l'Argentine, l'Argentine et la France. Et si 2021 marque le centenaire de la naissance d'Astor Piazzolla, c'est aussi le cas pour Georges Brassens, né à Sète le 22 octobre 1921. C'est donc avec Brassens et les passantes que nous nous quittons, remerciant une fois de plus tous nos amis français et argentins qui ont apporté leur témoignage pour ce programme spécial sur la nuit des idées.
Je veux dédier ce poème à toutes les femmes qu'on aime. Pendant quelques instants secrets, à celles qu'on connaît à peine, qu'un destin différent entraîne et qu'on ne retrouve jamais. À celles qu'on voit apparaître une seconde à sa fenêtre et qui preste s'évanouit, mais dont la svelte silhouette est si gracieuse et fluette qu'on en demeure épanoui. À la compagne de voyage dont les yeux charmant paysage font paraître court le chemin qu'on est seul peut-être à comprendre et qu'on laisse pourtant descendre sans avoir effleuré la main. À celles qui sont déjà prises et qui vivent des heures grises près d'un être trop différent, vous ont inutile folie laissé voir la mélancolie d'un avenir désespérant. Chères images aperçues, espérance d'un jour déçu, vous serez dans l'oubli demain. Pour peu que le bonheur survienne, il est rare qu'on se souvienne des épisodes du chemin. Mais si l'on a manqué sa vie, on songe avec un peu d'envie à tous ces bonheurs entrevus, aux baisers qu'on n'osa pas prendre, aux cœurs qui doivent vous attendre, aux yeux qu'on n'a jamais revu. Alors, au soir de lassitude, tout en peuplant sa solitude, des fantômes du souvenir, on pleure les lèvres absentes de toutes ces belles passantes que l'on n'a pas su retenir.